Monsieur le ministre d'État, comme vous le savez, chers collègues, l'ordre du jour unique d'aujourd'hui est la clôture de la session inaugurale de l'Assemblée nationale qui aura duré 2 mois. Je vous rappelle, chers collègues, que dès après la clôture, il y a un test général organisé au niveau de tous les députés. Le personnel est déjà dans nos murs. J'en commençais par moi-même et j'ai le bonheur de vous dire que mon résultat était négatif. Nous voilà arrivés au terme de notre session spéciale de mai-juin 2020, au cours de laquelle vous avez, à travers une présence assidue, fait preuve de sérieux et de responsabilité. Je vous en félicite. Chers collègues, juste quelques semaines après notre installation, notre vie a été affectée par un événement brutal et douloureux qui nous a marqués il y a maintenant un peu plus d'un mois. En effet, de la façon la plus inattendue, notre collègue, le deuxième vice-président, honorable Lucène Fofana, paix à son âme, nous a été arraché à notre affection. Voyez-vous, on aime une personne sans le savoir et on s'aperçoit de toute la profondeur des racines de cet amour qu'au moment de la séparation ultime. Et oui, la mort est impitoyable. La mort ne rentre dans aucun schéma. Chers collègues, aussi quelques jours avant et après cette terrible nouvelle, et dans le même sillage, nous apprenions d'autres tristes nouvelles. Le décès de Maître Salif Kébé, président de la CENI, du ministre Sékou Kourouma, secrétaire général du gouvernement, du doyen Kaba Baro Kondé, de Moustapha Kaba et tant d'autres tous aussi chers à nos cœurs. En hommage à ces personnalités, je vous invite à vous lever pour observer une minute de silence et de recueillement à leur mémoire. Merci. Distingués invités, mesdames et messieurs, comme à l'accoutumée, nous ne sommes pas seuls. Permettez-moi de traduire en votre nom le plaisir qui est le nôtre de noter parmi nous la présence d'éminentes personnalités de la République venues nous soutenir. Je commencerai bien entendu par mon cher ami, Son Excellence Monsieur le Premier ministre, représenté à cette cérémonie par le ministre d'État, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Son Excellence le ministre Papa Koli Kourouma. Excellence Monsieur le Premier ministre, c'est un continuel sentiment de reconnaissance de bénéficier de votre soutien et de celui de tous les membres du gouvernement. Je tiens ici à vous dire et à vous dire merci. À vous, mesdames et messieurs, les présidents d'institutions, soyez salués pour votre soutien constant. À vous également, les membres du gouvernement, recevez toute ma reconnaissance pour votre présence à nos côtés. Chers collègues, je voudrais en ce moment solennel de clôture de cette session que nous nous souvenions de notre passé, non pas par nostalgie, mais pour y puiser les enseignements nécessaires dont nous avons besoin aujourd'hui pour surmonter les graves épreuves qui menacent notre propre existence, notre cohésion sociale et les nobles valeurs que nous partageons depuis la nuit des temps. Les adversités et leurs stigmates que nous continuons de porter dans la douleur, mais dans la dignité, sont si évidentes que j'aurais mauvaise grâce à les citer. Retenons tout simplement que le passé de la Guinée est fait de gloire et de douleur. Et souvent, le souvenir de la douleur est aussi douloureux que la douleur elle-même. La valeur la plus forte à mon humble avis, qui est la seule à pouvoir vaincre nos maux et qui demeure le critérium le plus important dans le processus de constitution de notre nation, est la volonté clairement exprimée des composants de notre nation à vivre ensemble. Je dis bien vivre ensemble. Sans la volonté de vivre ensemble, il n'y a pas d'existence possible. L'avenir appartient certes à Dieu le Tout-Puissant, mais le devenir de notre nation dépendra des actes que nous posons aujourd'hui. Mesdames et messieurs, chers collègues, un certain problème de constitution a fait couler beaucoup d'encre, de salive et hélas de sang. L'enceinte où nous sommes, qu'est l'Assemblée nationale, m'inspire de façon quasi irrésistible à une réflexion. Voici quelques mois, la Constitution a été changée en l'enrichissant de plusieurs nouveaux chapitres qui affectent positivement notre vie sociale. Entre autres, par le renforcement aussi des moyens du contrôle parlementaire sur le gouvernement, ce qui donne une nouvelle dimension à la représentation nationale. Retenons aussi que la Constitution et son fonctionnement évoluent non pas par simple plaisir du changement, mais parce que le temps passe, la société change et pour vivre, il faut s'y adapter. Ne nous y trompons pas cependant, il ne s'agit pas de nous copier les uns les autres. En matière de constitution, il n'existe pas de procédé industriel permettant de livrer des usines institutionnelles clés en main. Une simple imitation serait stérile. Si l'on veut s'abandonner à la métaphore, comme l'a dit une éminence africaine, mieux vaut voir chaque constitution comme un vêtement. Un vêtement se décide et se coud en fonction des formes, des mesures, de celle ou celui qui doit le porter. Bien plus, celui qu'on habille ne gardera pas immuablement la même silhouette. Les âges de la vie, l'état de santé, la condition physique appellent des corrections qui vont de simples retouches à un changement d'habit. Peut-être un ironiste suggérera-t-il qu'un vêtement est une affaire de mode et qu'il ne faut pas faire subir aux institutions des mutations de pure fantaisie. N'y a-t-il pas quelque chose de cela dans l'appel si souvent entendu à la modernité institutionnelle? Il me semble que l'usage du terme « modernité » dans la vie politique est matière de malentendus entre nos jeunes États et les vieilles démocraties. Certains de ceux qui l'emploient paraissent croire que la modernité politique exige, en dépit de la géographie et de l'histoire, l'uniformité des institutions dans tous les États du monde. Ils se trompent. D'autres, se croyant plus réalistes, pensent que la modernité est hors d'atteinte pour les pays dans lesquels le respect de la tradition s'opposerait à tout changement. Ils ne se tromperaient pas moins. Cette antithèse mécanique entre le passé et l'avenir, Jean Jaurès l'avait dénoncé en s'écriant, je cite, « Le fleuve est fidèle à sa source quand il descend vers la mer. » Fin de citation. Moins éloquemment, hélas, je dirais qu'une communauté de valeurs, le principe démocratique, les droits de l'homme, le pluralisme peut rassembler sans se trahir et sans les trahir les traditions différentes. Le constitutionnalisme naissant à la fin du XVIIIe siècle avait rêvé de faire d'une constitution un livre révélé, défiant le temps et l'histoire. Cependant, maintes exemples dans le monde nous ont appris que sans qu'on échange à tout moment les règles du jeu politique, il existe dans chaque nation une capacité d'adaptation qui est riche de bons usages. Les textes ne doivent donc pas être immuables, ils ne doivent pas être davantage rigides. Il faut certes une règle du jeu, mais laquelle n'est pas une fin en soi. Le jeu lui-même n'en est pas une simple application. Ce jeu est fait de rapports humains entre les gouvernants et les gouvernés, entre les individus et les groupes sociaux, entre le pouvoir central et les collectivités décentralisées, ce n'est pas non plus un jeu de robots. Une démocratie est par définition pluraliste. Elle suppose la pluralité des opinions, des partis, des organes de l'État, des niveaux d'administration, des organisations sociales ou syndicales, des entreprises publiques et privées. Tour à tour, les différents acteurs politiques doivent faire entendre leur voix, qui sont distincts ou peuvent même être alternatives, pourvu que sur l'essentiel, c'est-à-dire l'intégrité, l'indépendance et l'unité nationale, elles se retrouvent à l'unisson. Et quand il s'agit des plus grandes questions, et qu'il faille faire surgir les grandes, de grandes décisions sur lesquelles les acteurs politiques ne s'entendent pas, le peuple au nom duquel chacun croit agir doit s'exprimer. Le processus le plus élaboré de consultation du peuple en démocratie est et demeure le référendum qui couronne la panoplie de moyens d'adaptation. Les ressources du droit sont à la fois les racines, les fruits de la civilisation politique et ne nous livrent pas de modèles, mais des expériences. Le profit en est partagé entre ceux qui les conduisent et ceux qui les observent. Chers collègues, mesdames et messieurs, en vous livrant cette réflexion sur l'évolution des institutions, je voulais rendre un hommage au président de la République, le professeur Alpha Condé, à son premier ministre et au gouvernement pour avoir proposé une nouvelle constitution. Je voulais aussi rendre hommage au peuple de Guinée pour avoir, dans sa majorité, accepté cette nouvelle constitution en votant le 22 mars 2020. Notre pays a besoin désormais de tranquillité et le temps des vieilles rancœurs doit être dépassé. Nous devons tous penser au pays avant de songer à nous-mêmes. Derrière les mots, il y a les faits et derrière les principes, les hommes. Il y a eu des dérives regrettables qui, au-delà des considérations politiques, ont été générées par le moi haïssable. Mais nous n'avons pas le droit de craindre l'avenir si nous domptons notre devenir. Chers collègues, mesdames et messieurs, un autre aspect de l'actualité chez nous et dans le monde est la lutte contre le coronavirus aujourd'hui qui est un enjeu majeur et planétaire. Toutes les nations tentent, tant bien que mal, de concilier les différents facteurs tridimensionnels que sont la santé, l'économie et la liberté, qui interfèrent à des degrés différents dans le combat contre la déferlante de la pandémie et qui impacte le cours de la vie des populations. Gérer ces trois facteurs de manière à préserver la santé publique, à maintenir l'activité économique et à sauvegarder autant que faire se peut la liberté des citoyens a constitué le triptyque fondateur de la stratégie nationale de lutte contre la pandémie. Que le président de la République de Guinée en soit remercié, que M. le Premier ministre et son gouvernement en soient félicités. Tout l'art de cette gestion doit résider désormais dans la part que prendrait chacun de ces trois leviers et la capacité de concilier leurs impératifs. Nous nous réjouissons que la nouveauté dans la gestion de cette crise ait été l'adoption de la philosophie de concertation, de partage des responsabilités, de large implication des acteurs, loin des instincts jacobins primaires à fort élan de pratiques centralisatrices et autoritaires. Dans la mise en place de la chaîne de décision, les pouvoirs publics dans notre pays se sont avisés des expertises du conseil scientifique, de l'instance religieuse et de la sphère économique, tout en mettant en contribution l'expérience des autres pays frappés par la première vague de la pandémie. Cette approche leur a valu de mettre en œuvre une stratégie cohérente, globale, intégrée et graduelle, couplée à une souplesse en fonction de l'évolution de la situation à laquelle chaque fois un palier de mesures préventives a été activé. Nous sommes heureux que le système de santé se soit rapidement et progressivement adapté en dépit de l'état initial de nos plateaux techniques, du nombre limité des personnels de santé et de la précarité des matériels et équipements disponibles. Sites de confinement de personnes à risque, suivi médical des cas suspects, prise en charge médicale des malades, réalisation des tests de dépistage et communication avec la plus grande transparence à la faveur d'un bulletin de santé quotidien ont été assurés de façon constante. Au plan économique, la rigueur a été de mise quand il avait fallu arrêter les activités informelles susceptibles de générer des attroupements, isoler les lieux de culte et boucler les frontières pour limiter le spectre géographique de la poussée pandémique. Les pouvoirs publics ont su également impulser un élan d'entraide soutenu par une synergie nationale sans précédent. Force est de reconnaître que les autorités publiques ont su mettre le curseur à la bonne place avec un choix médian mesuré et une prise en compte intelligente des différentes exigences de l'équation santé, économie et liberté. Ce choix a permis jusqu'ici de limiter considérablement la propagation de la pandémie qui fait toujours des ravages dans d'autres pays disposant de systèmes plus performants. Tout en félicitant le gouvernement sur sa gestion, faut-il rappeler que la conduite de chacun d'entre nous dépasse sa propre personne et peut impacter la société tout entière. Respectons donc les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires. Je saisis l'occasion à ce niveau pour rendre un hommage appuyé aux personnels de santé qui sont en première ligne dans la lutte contre ce terrible virus. Chers collègues, la clôture d'une session parlementaire nous a toujours fait l'obligation de retracer les activités qui nous ont tenus en haleine tout au long des deux derniers mois, c'est-à-dire mai et juin. En termes de bilan de l'activité législative, disons-le sans fausse modestie, chers collègues, nous avons beaucoup travaillé et même bien travaillé. Ainsi, durant cette session, qui n'aura duré que deux mois au titre des textes examinés et adoptés, nous avons eu, premièrement, la loi d'autorisation de prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République de Guinée du 15 mai 2020. Deuxièmement, la loi d'autorisation de prorogation pour la deuxième fois de l'état d'urgence sanitaire en République de Guinée du 16 juin 2020. Troisièmement, la loi d'autorisation de ratification de l'accord de prêt entre le gouvernement de la République de Guinée d'une part et la société Palumbo Group Limited et son partenaire financier Trinity Wealth Management. Quatrièmement, la loi d'autorisation de ratification de la convention de base entre la République de Guinée et Winning Consortium Simandou pour l'exploitation du minerai de fer des blocs 1 et 2 de Simandou. Cinquièmement, un accord de financement, projet d'urgence pour la riposte et le renforcement de la préparation des systèmes de santé face à la COVID-19 entre la République de Guinée et l'Association internationale de développement, IDA. 6. Loi d'autorisation de ratification du projet d'autonomisation des femmes et des filles et dividendes démographiques au Sahel, en Guinée. 7. La loi d'autorisation de ratification de procès verbal des négociations entre la République de Guinée et l'Association internationale de développement, IDA, au sujet du projet de riposte d'urgence et d'appui au programme NAFA. 8. La loi organique portant composition, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la communication. 9. Loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil économique, social, environnemental et culturel. 10. La loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. 11. La loi portant amendement du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. 12. La loi d'habilitation du président de la République à prendre des ordonnances pendant la période des vacances parlementaires. Et enfin, une résolution relative à la commission d'information sur la COVID-19. Chers collègues, mesdames et messieurs, ensemble, nous nous sommes évertués à assumer nos responsabilités de contrôle de l'action gouvernementale et d'évaluation des politiques publiques, de vote des lois et de représentation de nos mandants au nom et pour le compte du peuple guinéen. Monsieur le Premier ministre, son représentant, le bureau de l'Assemblée nationale a décidé de mettre en place pour cette vacance parlementaire, une première commission d'information. Elle vise entre autres à permettre à l'Assemblée nationale de s'enquérir de la gestion sur le terrain de la stratégie de lutte contre la COVID-19. C'est certes une pratique peu courante qui est désormais instituée pour une meilleure capitalisation de notre rôle de contrôle parlementaire de l'action gouvernementale. Une série de commissions d'enquête sera mise en place à la rentrée parlementaire prochaine qui portera entre autres sur les sociétés de téléphonie mobile. Elle visera entre autres à permettre à l'Assemblée nationale de s'enquérir de la qualité des services de télécommunication dans notre pays, de la couverture GSM du territoire, du système de facturation des services offerts. Il convient de le préciser. Son principal objectif sera de s'assurer du civisme fiscal de toutes les sociétés évoluant dans le secteur de la téléphonie mobile. La seconde commission d'enquête ou d'information abordera pour sa part la question de l'opérationnalisation des fonds, de l'opérationnalité des fonds de soutien aux grandes activités sectorielles, fonds miniers, fonds de sauvegarde de l'environnement, pour ne citer que ceux-là. La problématique de l'emploi des nationaux dans la société minière et sur l'effectivité du paiement de la contribution financière relative au contenu local. Cette mission d'observation s'inscrit dans la perspective d'évaluation de l'efficacité des dix fonds et des capacités du secteur minier à générer davantage d'emplois aux nationaux, à alimenter le budget des organismes économiques et sociaux et à contribuer au développement local, etc., etc. Monsieur le Premier ministre, l'institution de la pratique des commissions parlementaires d'enquête et ou d'information va faire, j'en suis sûr, que les administrations seront désormais tenues à plus de transparence, à plus de lisibilité et donc à plus de responsabilité dans leurs pratiques budgétaires et comptables. Eu égard au contexte et aux enseignements que nous devons tirer impérativement de cette session, je me propose quand même de partager avec vous, chers collègues, certaines considérations qui me paraissent opportunes. L'Assemblée nationale est le cadre par excellence de la démocratie. Démocratie dans les échanges entre députés. Démocratie dans le déroulement des débats. Démocratie dans l'expression des idées, des opinions et des propositions. L'idéal démocratique dans un Parlement doit porter sur les principes de discipline, de respect mutuel, dans l'observation stricte des règles de la morale publique et dans un esprit de tolérance basé sur la recherche d'un consensus dynamique et positif. L'idéal démocratique plonge également ses racines dans la réalité d'une majorité et d'une minorité sans l'existence desquelles aucun débat démocratique ne peut être opérant. Cette réalité-là est intangible et éminemment immarcescible. Tout est question d'ouverture d'esprit, de capacité d'élévation, de synthèse à élaborer sur la base d'une volonté manifeste et équitable, profitable à tous. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui a été amendé est une loi organique qui détermine dans toute la mesure du possible le fonctionnement de l'institution parlementaire dans sa globalité, le déroulement des travaux en commission et en séance plénière, définit les attributions des organes qui dirigent l'Assemblée nationale, à savoir le bureau, la conférence des présidents, le secrétariat général, les commissions permanentes et les services qui composent l'institution. Cette loi organique est notre référence. Un député peut, au début d'une législature, ignorer certaines dispositions du règlement intérieur, car c'est le déroulement du temps qui permet aux uns et aux autres de connaître le contenu de ces dispositions, les procédures de leur mise en œuvre et les limites qu'il faut observer pour que chaque député prenne part à un débat public qui soit digne d'une institution parlementaire. Mais encore une fois, il faut pour qu'il en soit ainsi que les principes de respect mutuel, de tolérance, de calme, de sérénité et de capacité d'élévation viennent aider les députés à tenir le langage qui sied à leur statut pour un débat constructif et opérationnel dans l'intérêt général bien compris. Une fois ce cadre nécessaire et fonctionnel bien compris de tous, il convient de rendre accessibles tous les outils dont les députés ont besoin pour mener à bien les missions qui leur incombent. Je saisis l'opportunité de ce détour pour remercier de manière exceptionnelle le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour son appui sans ménagement à la nouvelle législature. Je remercie également le Premier ministre, le ministre du Budget et des Finances, qu'ils en soient également remerciés pour la diligence, l'enthousiasme avec lequel les instructions données par le président de la République ont été exécutées en notre faveur. Chers collègues, mesdames et messieurs, au cours de cette session, la diplomatie parlementaire n'a pas été absente. Elle a de façon constante renforcé la diplomatie traditionnelle en défendant au mieux des positions nationales, tant sur le plan sous-régional qu'international. C'est ainsi que nous avons reçu les félicitations et invitations des pays et institutions suivants jusque-là. L'Égypte, à travers le président de la Chambre des représentants et de l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte. La Chine, à travers le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de la Chine populaire de Chine. 3. L'Algérie, à travers le président de l'Assemblée populaire nationale de la République algérienne démocratique et populaire. Les institutions nationales, sous-régionales et internationales n'ont pas été en reste. Nous avons donc reçu également les félicitations et invitations de l'Union interparlementaire. Les félicitations de l'Union parlementaire des États membres de la conférence de l'Organisation de la conférence islamique, OCI. L'invitation du commissariat pour les affaires politiques de la CEDEAO. Les félicitations de la plateforme nationale de participation et d'initiative citoyenne des Nations Unies. Les félicitations du Global Council for Tolerance and Peace, aussi des Nations Unies. Les félicitations du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement, APNODE, et l'invitation à la 6e conférence de la BAD à Rabat le mois prochain. Et enfin, l'invitation de l'Assemblée nationale de la Corée du Sud. Monsieur le Premier ministre, aussi au niveau des infrastructures, nous avons entamé la rénovation des bureaux des présidents de commission, les bureaux des vice-présidents et les questeurs et aussi des groupes parlementaires. Je suis heureux de vous faire part de l'achèvement des travaux du bureau du président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Premier ministre, toutes ces réhabilitations sont en train d'être prises en charge par notre budget de fonctionnement, de toute évidence insuffisant. L'équipement de l'institution en moyens de locomotion et autres matériels informatiques et bureautiques se poursuit et ne pourra se terminer sans l'assistance déjà soutenue de l'exécutif. Conscient du droit du citoyen à être informé de façon permanente sur tous les aspects du travail parlementaire et en vue de renforcer notre démocratie, nous avons œuvré à la création et au développement de divers espaces de communication qui ont englobé un programme complet de digitalisation de la vie parlementaire en Guinée. Monsieur le Premier ministre, faut-il vous le rappeler que l'Assemblée nationale, comme tant d'autres institutions d'ailleurs, n'a pas de siège. C'est l'occasion de remercier le gouvernement et le peuple chinois qui ont fait un don d'environ 40 millions US$ pour la construction d'un siège pour notre Assemblée. Pour la réalisation de ce projet, la Guinée a des obligations, bien sûr. Les dispositions favorables que nous avons décelées auprès du pouvoir exécutif et pour lesquelles nous la remercions vivement ont été et seront d'un apport décisif pour l'accomplissement de nos tâches parlementaires. Mesdames et messieurs, honorables collègues, permettez-moi de remercier les présidents des trois groupes parlementaires, nos collègues honorables Ali Kaba, Dr Dean Touré et Dembo Sylla, ainsi que les députés qui ont assuré la représentation jour après jour à la conférence des présidents. J'associe à ces remerciements les présidents et les membres des commissions permanentes, aux deux comités chargés respectivement du projet de digitalisation et de suivi de la construction du siège de l'Assemblée nationale. Ils ont tous apporté une collaboration vigilante et utile tout au long de la session que nous allons clore aujourd'hui. Monsieur Dr Mohamed Bereté, le secrétaire général, et les agents des services placés sous son autorité mérite nos remerciements et nos encouragements renouvelés pour la qualité du travail qu'ils accomplissent chaque jour. Je mentionne notamment les services techniques et les huissiers pour leur assiduité et leur travail toujours soigné. De même, les membres de mon cabinet qui m'assistent avec efficacité, constance et loyauté. Je leur dis merci. La presse nationale, publique comme privée, les secrétaires, les transcripteurs, les services de sécurité et ceux du protocole méritent également nos remerciements. C'est sur ces mots que je déclare solennellement clos les travaux de la session parlementaire spéciale qui venait de durer 2 mois.